Chers amis, heureux d'être ensemble encore ce matin dans la présence du Seigneur. Heureux aussi d'avoir quelques instants pour méditer sa parole qui est, comme notre frère a dit, une richesse extraordinaire. Quand on puise dans la parole de Dieu, on retire tant de bienfaits pour nos âmes. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on réfléchisse un peu sur le chapitre 4 de Philippiens. C'est le dernier chapitre de l'épître, qui est vraiment une épître magnifique, parce qu'on appelle cette épître l'épître du contentement, l'épître de la joie. Le verset clé, c'est « J'ai appris à être content ». C'est ce que Paul dit au chapitre 4, « J'ai appris », par deux fois, il le dit, « J'ai appris ».« J'ai appris à être content ». Alors, on parle beaucoup de la joie dans l'épître. Le mot « joie » s'y trouve 6 fois. Le verbe « se réjouir » se trouve 10 fois. C'est pourquoi Warren Wiersbe, qui a fait le commentaire de cet épître, il a intitulé son commentaire « Soyez joyeux ». Voilà, ça veut dire clairement l'intention de l'apôtre Paul avec cet épître-ci. Alors, je lis au chapitre 4, je commence par le verset 4, pour d'emblée donner le ton. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout, toute intelligence, elle gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et pour le reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, eh bien, que tout ça soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait, et ce n'est pas en vue de ces besoins que je dis cela, car j'ai appris. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance aussi. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ, les frères qui sont avec moi vous saluent, tous les saints vous saluent et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. On voit que, premièrement, c'est une épître personnelle, très personnelle. Paul est à Rome en résidence surveillée On en parle dans Actes au chapitre 23. Nous sommes aux environs de l'année 63 après Christ. Et comme toujours, les prisonniers des Romains devaient pourvoir eux-mêmes à leurs besoins. Et donc, les chrétiens de Philippe lui ont envoyé de quoi subvenir à ses besoins par un membre de leur église, Épaphrodite, et Paul les remercie chaleureusement. Alors, c'est une église à Philippe dont les débuts sont racontés dans Actes 16, et on peut dire que c'est la première église d'Europe qui a été fondée lors du deuxième voyage missionnaire de Paul, 10 ans plus tôt. Et déjà là, Paul avait été prisonnier. Il avait déjà été en prison et il a été délivré miraculeusement en chantant des cantiques. Et même le geôlier et toute sa famille se sont convertis à cette époque-là. C'était un bon début d'église. Magnifique. Alors, dans cet épître-ci, Paul exprime beaucoup son affection et dit « Je vous chéris tous avec la tendresse qui est en Jésus-Christ. Vous êtes ma joie et ma couronne. » Et il n'y a pas d'exposé, de grand exposé de doctrine comme dans Romains par exemple. Il n'y a aucune citation de l'Ancien Testament. Donc Paul parle vraiment de cœur à cœur. Ce qui rend cette épître tellement belle. Et il n'y a aucun reproche. Il y a deux sœurs qui se chamaillent, qui ne s'arrangent pas, et Paul leur fait une exhortation gentille et leur dit à Évodie et Saint-Tige, mais essayez d'être dans un même sentiment, dans le Seigneur. Et puis il n'en dira pas plus, on ne saura rien de plus sur leur mésentente. Alors, c'est un apôtre qui souffre cependant. Et on peut dire que Paul est joyeux malgré sa souffrance. Il était dans l'incertitude du jugement. Il pouvait être acquitté. Il pouvait être aussi condamné jusqu'à la peine capitale. Les Romains ne gardaient jamais longtemps leurs prisonniers en prison. Une fois qu'ils étaient condamnés, c'était souvent la condamnation capitale. Et Paul était de plus en plus seul parce que les chrétiens de Rome, il y avait des chrétiens à Rome, mais les chrétiens étaient perplexes. Ils ne savaient pas très bien quoi dire de cet emprisonnement de Paul. Fallait-il le soutenir? Fallait-il le défendre? Fallait-il courir ce risque? Ou fallait-il rester un peu dans l'obscurité, le calme? Alors, plusieurs fois, Paul parle de sa mort comme si elle était proche. Il dit « Christ est ma vie, mais mourir m'est un gain ». Donc, c'est comme s'il s'y attend. Il écrira encore 3 épîtres, cependant, les épîtres pastorales. 1, 2, Timothée et Tite, et peut-être encore 1 ou 2 autres épîtres qui n'ont pas été gardées dans l'histoire. Mais l'empereur change, ça devient l'empereur Néron, et Néron, ça va tourner mal avec cet empereur, parce qu'il va accuser les chrétiens d'être responsable d'une grande incendie à Rome. Et Paul aussi sera condamné. Il sera décapité sur le chemin qui va de Rome à Ostie. Et on dit qu'il a été décapité en chantant des cantiques. C'est extraordinaire. Et ça nous rappelle sa conversion sur le chemin de Damas, comment Dieu l'a appelé et comment il a été aveuglé par le Seigneur et comment Dieu a dû envoyer quelqu'un pour prier pour lui, pour qu'il recouvre la vue. Et Dieu appelle un certain Ananias pour lui dire « Va prier pour Paul qui a été converti ». Et Ananias hésite, il a peur. Et il dira à Dieu, mais Seigneur, cet homme fait du mal aux chrétiens. Et Dieu lui dira, Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et dans toute cette épître, autant Paul parle de la joie et du contentement qu'il a en tant que chrétien, autant il parle de ses détresses et de ses souffrances. On peut dire qu'il est un peu à l'exemple de Christ dans cette affaire. Parce que la joie dans la souffrance, c'est aussi ce qui caractérise Christ. Déjà, Ésaïe, en prophétisant sur Jésus, disait que Jésus est un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et pourtant, c'est la joie qu'il habite. Et quand les disciples, les 70 disciples sont revenus d'avoir été envoyés en mission par Jésus, eh bien, ils racontent toutes les merveilles qu'ils ont vécues et qu'ils ont vues par la prédication de l'Évangile. Et Jésus est content. Et il est dit qu'il tressaillit de joie dans Luc 10, 21. Alors, Jésus a encore parlé de la joie chrétienne lors de la dernière Pâque. Vous vous souvenez de ce dernier chapitre de Jean qui sont magnifiques. Et il dira à ses disciples, « Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Et il dira cette belle phrase, « Nul ne vous ravira votre joie. » Personne ne pourra vous l'enlever. C'est une joie qui est caractérisée pour le chrétien. Celui qui suit le Seigneur possède cette joie en lui et personne ne peut lui enlever. Nul ne vous ravira la joie. C'est vraiment le destin du chrétien. La joie fait partie de la vie chrétienne. Jésus aussi a prononcé ses béatitudes. Tous ces gens qui sont heureux dans la souffrance, bien souvent. Et bien sûr, les béatitudes s'adressent aux chrétiens. Ce sont les chrétiens qui bénéficient des béatitudes. Et dans Luc 6, le Seigneur dira à ses disciples, « Réjouissez-vous si vous êtes outragés, si on vous persécute. Réjouissez-vous parce que vous aurez une grande récompense dans le ciel. » Donc, le chrétien est appelé à être un être heureux et profondément joyeux malgré les circonstances. Les circonstances n'influencent pas son bonheur intérieur. Ce n'est pas un chrétien thermomètre qui se laisse influencer, mais un chrétien thermostat qui, lui, influence le monde. Alors, ce que le contentement chrétien n'est pas, le contentement chrétien fait une différence avec le contentement de ce monde. Pour Paul, la joie chrétienne, elle est spécifique, on peut la caractériser. Ce n'est pas de l'autosatisfaction. Notre frère a parlé sur l'égoïsme. Ce n'est pas une satisfaction qui provient de notre ego, de ce que nous sommes. Nous sommes en bonne santé, on est heureux, tout nous réussit, on a de l'argent, on est heureux, on a des capacités, on s'en vante, on est heureux. Mais ce n'est pas cette satisfaction-là qui est le contentement chrétien. Parce que Paul parle du corps de notre humiliation, et il parle des faux frères au chapitre 4 et il en parle en pleurant. Et au chapitre 4, ici, il parle de sa détresse. Donc, son contentement reste, même quand des choses ne vont pas comme on voudrait qu'elles aillent. Ce n'est pas non plus l'autosuggestion. Sa satisfaction n'est pas un exercice psychique qui consiste à répéter sans cesse « Je suis content, je suis content, je suis content » à la façon de la méthode Coué. Coué a certainement dit des grandes et belles choses, mais le contentement chrétien, c'est autre chose. Le contentement chrétien est basé sur des motivations réelles, des motivations raisonnables. Ce n'est pas non plus le fatalisme, parce que souvent on entend pareil raisonnement, tout est fatalité, on ne peut rien y faire, il faut prendre les choses comme elles viennent, le chrétien doit toujours montrer bonne figure, il ne peut jamais rien revendiquer, et il doit tout accepter avec le sourire. Déjà entendu ces raisonnements-là. Ça, c'est le fatalisme. Et nous voyons chez Paul, il n'y a pas de fatalisme. Parce que lui savait revendiquer son ministère quand il fallait. Il savait argumenter pour se défendre. Il ne cachait pas ses sentiments. Donc, le contentement chrétien est différent. Ce n'est pas, bien sûr, de l'automutilation, se faire du mal pour avoir du plaisir, pour ressentir du plaisir, se faire mal. Paul n'est pas un masochiste, il ne cherche pas à souffrir pour le plaisir de la souffrance. Il a appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance. Ce n'est pas non plus l'indifférence, parce que là aussi, parfois, nous souffrons d'une certaine insensibilité et nous sommes indifférents à la souffrance de ceux qui nous entourent pour se sentir mieux soi-même. Le chrétien reste concerné. Il est empathique, il a l'empathie, la pitié envers celui qui souffre. En parlant d'Épaphrodite, Paul dira qu'il a été malade et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de Paul, afin qu'il n'ait pas tristesse sur tristesse, dira-t-il au chapitre 2. Ça, c'est magnifique. Alors, le contentement chrétien n'est pas non plus du professionnalisme. Quand on voit parfois les speakers à la télévision qui nous annoncent le journal parlé avec une annonce de drame terrible, avec un beau sourire professionnel, ça ne colle pas. Moi j'ai connu une directrice qui était toujours souriante dans n'importe quelle situation, même en te donnant le C4. Et il y avait le plus beau sourire du monde. Ça, c'est le professionnalisme. Mais le contentement chrétien n'a rien de ce sourire mécanique. C'est tout différent. Alors, qu'est-ce que c'est le contentement chrétien par définition? C'est un contentement qui est vrai, profond et durable. Et Paul lui-même en donne une bonne définition au verset 7. C'est une paix intérieure qui vient de Dieu, qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Voyez-vous pourquoi il est bien d'être chrétien? Parce que nous avons quelque chose que le monde ne connaît pas. Nous avons une caractéristique, une capacité que le monde ne connaît pas. Et dans 2 Corinthiens, il dira que c'est un trésor. Que nous avons, un vrai trésor que nous portons, nous, étant des vases de terre. Mais c'est une grande puissance attribuée à Dieu et qui n'est pas attribuée à nous-mêmes. Et il dira encore, nous sommes pressés de toute manière, mais pas réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais pas dans le désespoir, persécutés, mais pas abandonnés, abattus, mais pas perdus. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous, les chrétiens, on ne perd pas courage. Parce qu'on a le contentement chrétien en nous. Nous voyons que dans Galates, au chapitre 5, le verset 22, il y a le texte sur le fruit de l'esprit en nous. Et parmi les vitamines de ce fruit de l'esprit, il y a la joie, tout comme l'amour et les autres qualités qui sont mentionnées dans Galates 5, 22. Et on sait que l'amour de l'Esprit de Dieu est un amour nouveau, que les chrétiens ont dû chercher un autre mot que le mot amour comme dans le monde. C'est un amour tout différent. Et ils ont pris le verbe agapeo, agapé, pour exprimer que cet amour est spécial. Il caractérise le chrétien. Et on peut dire que c'est la même chose pour la joie. La joie du chrétien, fruit de l'Esprit de Dieu, est différent. Alors, je vous parlerai de Claire Lise de Benoît. Elle est une dame vraiment extraordinaire, fille de missionnaire, et qui a consacré sa vie beaucoup aux enfants et à la jeunesse, et aussi aux étudiants dans les instituts bibliques. Alors, elle a écrit toute une série de canevas, comme celui qui est affiché là, et qui sont encore aujourd'hui employés dans tous les instituts bibliques de la francophonie, tellement ils sont riches. Et dans son petit canevas sur l'Épître aux Philippiens, j'ai trouvé deux pages splendides, vraiment splendides, et je veux vous les partager, parce qu'elles nous donnent toutes les caractéristiques du contentement chrétien, page 21 et 22. Elle dit par exemple que la joie chrétienne, elle est profonde. C'est-à-dire, elle s'établit au centre de l'être et elle n'en déloge plus. Elle demeure en nous. La joie du monde, elle, est superficielle. Elle s'envole aussi facilement que le papillon sur une fleur. Mais le contentement chrétien est durable. Durable, profond et durable. La joie chrétienne ne croule pas quand vient l'adversité. Nul ne peut la ravir. La joie du monde est passagère, tel un éclair dans la nuit. La joie chrétienne est stable, indépendante des circonstances. Elle peut fleurir au sein d'un enfer terrestre. L'épître de la joie a été rédigé dans une prison. Un païen peut chanter quand il sort de la prison, mais le chrétien peut chanter dans les quatre murs de la prison. Voilà la différence. La joie du monde dépend des choses extérieures, santé, richesse, amis, prospérité, réussite de nos projets. C'est un fragile château de cartes qui s'écroule très facilement. La joie chrétienne est désintéressée. Comme un torrent vivifiant, elle déborde sur ceux qui l'entourent. Elle a coulé de Rome à Philippe. La joie du monde est égoïste, repliée sur soi. La joie chrétienne est pure. Elle jaillit d'un cœur justifié par la grâce. Le péché nous sépare de Dieu, qui est la source de la joie, et par conséquent détruit notre joie. Mais avec le pardon, la joie nous est rendue. Heureux à qui le péché est pardonné. La joie du monde, par contre, est une joie impure. Comme dans Luc 22, le verset 3 à 6, nous parle des meurtriers du Seigneur et leur fausse joie. La joie du Seigneur est paisible. Elle n'est alliée à aucune crainte. Ne vous inquiétez de rien. La joie du monde est tout sauf paisible. Elle est souvent très bruyante et inquiète. La joie chrétienne est complète. Elle contient toutes les joies humaines. Elle les surpasse toutes. Et aucune d'elles ne l'égale. Elle possède toutes les qualités qui leur manquent et aucun des défauts qui les ternissent. Elle est l'expression d'une pleine satisfaction. La joie du monde est toujours incomplète. comme un navire dont les voiles sont trouées. Fin de citation. Alors voilà, le contentement correspond donc à des origines bien définies et bien réelles qui nous motivent en profondeur, et les connaître, c'est s'en approprier, c'est exercer et grandir dans le contentement. Il nous est donné par le Saint-Esprit qui nous est donné, et c'est à nous de l'exercer, de l'utiliser, d'en faire un apprentissage pour qu'on progresse et qu'on grandisse. J'ai appris à être content. Alors dans ce chapitre, Paul nous donne les sources de ce contentement. Et les sources du contentement chrétien, il mentionne trois sources. Et je voudrais clôturer avec ce point important. D'où provient le contentement chrétien? Il provient premièrement de la providence de Dieu. Parce qu'il est dit au verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Tous vos besoins, pas quelques-uns, tous. Et ce mot « tous » est vraiment très important. Et il y a de quoi être tranquille, parce que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Et il y a de quoi se savoir en sécurité. Et dans la mesure où nous aurons une juste connaissance de la providence de Dieu, dans la mesure où nous avons une juste connaissance de son intérêt pour nous, de sa prévoyance, eh bien nous pourrons vivre pleinement dans le contentement. Le mot providence vient du latin pro video, voir à l'avance. Voir à l'avance. Dieu dispose à l'avance des circonstances pour accomplir ses plans. Combien d'exemples ne voyons-nous pas dans la parole de Dieu? Comme pour Abraham, par exemple. Abraham a cru à la providence de Dieu. Et quand Dieu lui demande de sacrifier son fils, il ne discute pas. Il ne se pose pas de questions parce qu'il croit à la résurrection. C'est extraordinaire. Il croit à la résurrection. Et il appellera ce lieu Yahvé Jiré, c'est-à-dire Dieu pourvoira. Pour Joseph, nous voyons la même confiance en Dieu quand il est vendu comme esclave par ses frères et qu'il se retrouve en prison durant des années en Égypte et que finalement, il gère les années grasses et les années maigres. Et il reverra ses frères arriver, affamés. Et quelle sera son attitude envers eux? Surprenant, n'est-ce pas? Quand il dira, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. C'est ça la providence de Dieu. Nous avons parmi les psaumes, le psaume 139, qui est vraiment un beau texte sur la prévoyance de Dieu. Et on pourrait le lire en entier, mais je vous lis juste deux, trois versets. Psaume 139. Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car ta parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière, par devant, tu mets ta main sur moi. Où irai-je? Loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, en Amérique, là aussi, ta main me conduira. Et ta droite me saisira. Quand je n'étais encore qu'une masse informe, tes yeux me voyaient déjà. Et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux n'existe. Vraiment, ce psaume est fantastique sur la prévoyance de Dieu. Dieu voit tout à l'avance. Il nous précède en tout. Jésus aussi l'a dit que le bon berger mène ses brebis dehors et marche devant elles. Le Seigneur marche devant nous, avant que les choses n'arrivent. Alors quand on est conscient de la prévoyance de Dieu et qu'on y croit, comme l'apôtre Paul qui a dit ici, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu », si on parvient à croire cela, eh bien, c'est une précieuse assurance et c'est une vraie source de contentement. On peut dire que une deuxième source de contentement pour Paul, c'était de savoir que Dieu est tout-puissant. Quand il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », on pourrait croire que c'est une phrase de vantardise. Non, il ne se vante pas lui-même, il vante Dieu. C'est Dieu qui sait tout. C'est Dieu qui peut me fortifier. Je me fortifie par moi-même. Alors Paul ne met pas sa sécurité dans des possessions matérielles. Il a appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Ce qui compte pour lui, c'est la toute-puissance de Dieu en qui il a confiance. Il sait que Dieu est riche, il sait que Dieu est fidèle, et il sait que Dieu ne manque pas, il ne manque jamais. Il y a de quoi être content. Sa vraie richesse, c'est Christ. Comme il le dit au chapitre précédent, « Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » Tout le reste, je regarde comme de la boue. C'est tellement meilleur d'être en Christ. Il n'y a plus que ça qui compte vraiment. Il n'y a plus que cela qui a de l'importance. Et alors, c'est vrai que parfois, l'abondance cause des dégâts. L'abondance cause plus de dégâts aux chrétiens que la pauvreté. Et c'est la grande leçon que les chrétiens de Laodicée ont dû apprendre. Quand le Seigneur leur dit, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'en réalité tu es pauvre. Tu es aveugle et tu es nu. Parce que ton contentement ne vient pas de Christ. Alors voyez les incroyants. Comment ils vivent, eux qui n'ont pas cette ressource intérieure que le chrétien possède. Voyez-les au travail, au bureau, à la maison. Un rien, ils s'énervent. Un rien, ils dépriment. Directement, ils recourent à la boisson ou au calmant. Ils vivent dans un état d'insatisfaction, de révolte, de vengeance. Et ça peut durer des années, de mal en pis. Alors, parfois, ce sont des tentations qui atteignent aussi les chrétiens. Et quand les épreuves nous semblent insurmontables, mais le chrétien a le réconfort en Christ. Il pourra toujours se rappeler des paroles de Christ. Et quand Christ dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », autrement dit « Avec moi, vous pouvez tout faire ». C'est extraordinaire. Christ nous redonne confiance et il nous aide à voir les choses de son point de vue, pas du nôtre. Et alors le contentement s'installe en nous parce que nous sommes en confiance. Et alors même le monde de nos pensées secrètes, change. Comme nous l'avons lu, nos pensées deviennent vraies, honorables, juste, pur, aimable, méritant l'approbation, la louange, vertueuse. Et c'est un apprentissage. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et vu en moi, vous aussi pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Et on peut dire, oui, le contentement s'installe dans nos cœurs lorsque nous avons une juste compréhension de la puissance infinie et infaillible de Dieu. Dans la mesure où nous avons cette confiance, le contentement s'installe. Et finalement, Paul est émerveillé de la fidélité de Dieu, troisièmement, parce qu'il dit que Dieu est proche, le Seigneur est proche. Paul a appris à croire en cette fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Christ avait promis de revenir et il reviendra donc. Son retour est proche. Et Paul était heureux. Paul croyait que Christ allait revenir de son vivant. Il y a plusieurs textes qui le montrent. Alors le sceptique pourra dire, mais voilà, nous avons une preuve que Paul s'est trompé. Près de 2000 ans après, le Seigneur n'est toujours pas revenu. Et le théologien pourra répondre, oui, mais pour Dieu, 1000 ans est comme un jour, n'est-ce pas? Mais l'essentiel, ce n'est pas de savoir le jour ou l'heure, mais l'important, c'est de s'y attendre. C'est ça l'important. L'important, c'est de croire que c'est imminent, croire que ça va arriver d'un moment à l'autre, et vivre en sachant que le Seigneur revient, vivre en attendant le retour de Christ. Croire que Christ revient bientôt nous procure un détachement de tout ce qui est terrestre et que normalement nous trouvons tellement important. Mais avec lui, les choses de la terre pâlissent. Alors nous sommes concitoyens des cieux d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, dira-t-il au chapitre 3. Quoi qu'il arrive, notre avenir est assuré parce que Dieu est fidèle. Est-ce que nous le croyons? Nous avons du mal à être fidèles à Dieu. Mais lui demeure fidèle. Lui ne change pas. Si nous croyons que Dieu est fidèle, nous avons une bonne raison pour nous réjouir et nous sentir heureux. 2 Pierre 3:9 donne une autre explication pour le retour du Seigneur qui est retardé. Il dit, le Seigneur ne tarde pas, mais il use de patience afin que personne ne périsse, mais que tout le monde parvienne à la repentance. Voilà. Alors, remarquez, pour finir, l'emploi du futur simple dans ce chapitre 4. Et il y en a trois et ils sont magnifiques. Le verset 7. Dieu gardera vos cœurs et pensées en Jésus-Christ. Verset 9. Le Dieu de paix sera avec vous. Verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est une assurance. Notre avenir est assuré, c'est rassurant. On peut affirmer qu'une juste connaissance de la fidélité dans l'accomplissement de ses promesses, voilà ce qui procure le contentement du chrétien. Alors être dans le contentement est vraiment une dimension essentielle pour le chrétien. C'est un moyen de vivre dans la victoire sur tout ce qui tend à nous dominer, les inquiétudes, le négativisme, le ressentiment, la morosité, la déprime. Le contentement est à notre portée car c'est le fruit de l'Esprit qui nous est donné. À nous de ne pas attrister l'Esprit de Dieu, à ne pas l'étouffer. Il faut que rien ne ternisse cette joie. C'est là l'apprentissage dont Paul parle. Apprenons, comme Paul a dû l'apprendre, que Dieu est vraiment providentiel envers ses enfants, que sa puissance est infaillible et que ses promesses sont oui et amen. Dieu est la source de notre joie, comme le dit un cantique d'Exo. Dieu, la source de ma joie. Oui, nous avons aussi un beau chant qui exprime la fidélité de Dieu. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité dure à toujours. Comme le dit ce psaume, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de pouvoir raconter toutes ses œuvres. Que le Seigneur nous aide à vivre pleinement dans ce contentement chrétien selon sa volonté et ce qu'il a prévu. Prions. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, combien nous te remercions pour ta parole et qui est pour nous un grand réconfort. Comme ta parole est claire, comme une lampe sur notre sentier, sur notre chemin. Ce matin, Seigneur, nous devons quand même te demander pardon, de l'avoir négligé, pardon d'être des apprentis aussi médiocres. Nous ne puisons pas dans ta parole suffisamment. Nous ne sommes même pas conscients de la joie que tu nous donnes et qui habite en nous. Pardon, Seigneur, pour nos insatisfactions, nos inquiétudes, notre la morosité qui nous habite si souvent. Pardon, Seigneur, d'écouter toujours nos raisonnements humains, les raisonnements ambiants, de copier le monde plus que ton esprit qui est en nous. Ô Seigneur, remplis-nous à nouveau de cette plénitude de ton esprit. Que le fruit de l'Esprit se manifeste dans nos vies. Nous voulons lui accorder toute la place, qu'il nous habite totalement dans toute sa plénitude. Délivre-nous, Seigneur, de toute entrave, de tout obstacle, tout ce qui étouffe l'Esprit en nous. Et souffle sur nous, accorde à ton peuple, à ton Église, une grande victoire. Oui, Seigneur, que la joie nous habite pleinement, celle qui est profonde, qui est durable, qui est pure, qui n'est suivie d'aucun chagrin. Que notre joie, Seigneur, déborde sur nos familles, qu'elle déborde sur nos amis, qu'elle déborde sur notre entourage, nos connaissances. Seigneur, que cette joie s'exprime dans nos louanges. Parce que oui, Seigneur, tu es la source de notre joie. Tu es fidèle, tu es tout-puissant, tu es providence. Nous voulons, Seigneur, te remercier de tout notre cœur, te louer pour cette réalité dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'avons prié. À toi la gloire. Amen. Amen.